8h moins le quart.
Le mot séduction et vous perdez vos moyens, mon cher Eric.
Oui, j'en perds ma pendule. Alain Baraton, au programme ce matin pour votre main verte, on parle de l'abélia. Ça commence par un homme,
oui.
Clark Abel. Il était médecin de l'ambassade d'Angleterre à Pékin en 1817.
Il est alors âgé de 37 ans. Il est apprécié de Lord Amherst, un ambassadeur qui lui demande de l'accompagner dans tous ses déplacements. On n'est jamais trop prudent. Clark Abel va ainsi parcourir la Chine, visiter de superbes jardins, et il est si passionné par tout ce qu'il voit qu'il publiera plusieurs livres, des ouvrages aujourd'hui très recherchés.
Oui, et la qualité première de Clark Abel, c'est son sens de l'observation.
Notre homme est curieux de tout. Il est un passionné d'ethnologie, de géologie, de la faune et de la flore. Il peut rester des heures à regarder un paysage, l'écorce d'un arbre ou la floraison d'une vivace.
Et un jour, Clark Abel fait une découverte.
Il observe en effet un arbuste qu'il ne parvient pas à identifier. Il envoie sans tarder un échantillon de la plante à son ami Robert Brown, lui aussi médecin, mais surtout un très grand botaniste. Le Robert Brown au XVIIIe siècle était vraiment, au XIXe, quelqu'un, un génie de la botanique. Et bien celui-ci lui confirme que la plante est inconnue des Européens.
Et il reste maintenant à lui donner un nom à cette plante.
Et Robert Brown respecte la tradition. Il baptise en 1825 le végétal Abelia, du nom de celui qu'il a découvert, Abel. Il faudra ensuite près de 20 ans pour voir l'abélia de Chine fleurir dans nos parcs et jardins.
L'abélia, cet arbuste, est encore assez rare en France.
Et c'est dommage car il mériterait d'être davantage employé, tout d'abord pour son port gracieux, ses jeunes tiges qui rougissent au printemps et ses feuilles caduques, puis pour sa floraison qui dure tout l'été. Les fleurs sont petites, blanc-rosées et délicieusement parfumées. Et oui, Patricia, vous avez un bouquet d'abélia qui vous attend dans votre bureau.
Quel menteur!
Alors, si l'on en voit peu autour de nous, c'est certainement à cause du froid. Mais oui, l'abélia est un peu frileux. Il déteste le gel et il doit toujours bénéficier d'une exposition privilégiée pour fleurir. Et ce n'est pas toujours possible, surtout si l'on habite au nord de la Loire. Mais il est vrai que on ne connaît pas beaucoup cet arbuste et c'est dommage. Il est vraiment très agréable à regarder et à sentir.
Eh bien, grâce à vous, Alain Baraton, on connaît mieux l'abélia ce matin en France. Vos conseils, vos réponses aux questions des auditeurs et auditrices. Louise vous demande justement quand et comment faut-il tailler les abélias.
Alors je rappelle que les arbustes se taillent toujours après la floraison. J'ai bien dit que l'abélia se taillant en été, il faut donc le tailler à l'automne. Il faut le tailler en admettant qu'il ait besoin de l'être, à savoir qu'on va le tailler pour lui donner une forme, si on veut lui donner une forme précise, si on veut le maintenir à une certaine dimension. L'abélia, sous nos climats, ne pousse pas très haut. C'est un arbuste qui atteint 1,50 m, 2 m de hauteur, et encore quand il est en grande forme. Par contre, moi, je conseille tous les ans d'épointer l'extrémité des tiges pour faire en sorte que son feuillage reste toujours compact.
Épointer les
tiges. Oui, on pince l'extrémité des tiges. Pincer, c'est une opération simple qui consiste simplement à couper au-dessus du dernier bourgeon les petits derniers centimètres de l'extrémité des tiges. En faisant ainsi, la plante, au lieu de développer en longueur ses tiges, va favoriser la ramification du branchage et permettre d'avoir une présentation plus dense. C'est une technique que je recommande aussi pour le camélia. On ne taille pas le camélia, mais on pointant l'extrémité des tiges tous les ans.
La tige ne fait pas aïe-aïe.
Comment ?
La tige ne fait pas aïe-aïe.
Non,
ça
mais on
fait
peut
mal,
se poser des questions. Quand on sait aujourd'hui comment on considère les plantes, quand on sait à quel point elles peuvent parfois produire des sensations, enfin avoir des comportements particuliers, je me demande si elles ne seraient pas non plus dotées parfois de sensibilité.
Bah tiens, ce sera l'objet d'une chronique.
Et pourquoi
pour
pas ?
Absolument. Georges vous demande pourquoi le pin qu'il a planté il y a plus de 10 ans a des branches qui sèchent en totalité.
Observez un arbre, Eric, quel qu'il soit. Vous rentrez dans sa ramure et vous constatez qu'il n'y a pas de feuilles. Les feuilles sont en fait disposées comme un panneau solaire, car les feuilles sont en fait les panneaux solaires du végétal. Le pin cherche la lumière. Il n'a donc plus besoin des aiguilles qui se trouvent près du sol et il se débarrasse petit à petit des feuilles, des branches les plus basses du sol. Ceux qui connaissent bien la forêt des Landes verront que les branches sont toujours à l'extrémité. Il n'y a jamais de branches basses sur un pin adulte. L'occasion de rappeler, parce que j'entends souvent le contraire et je maintiens ce que je dis, un conifère ne produit jamais de branches en dessous de la dernière existante. Si vous coupez les branches de votre conifère à 2,50 m, les suivantes seront toujours au-dessus, jamais en dessous.
Lorraine, puis-je laisser les lys dans la terre pour les voir refleurir l'an prochain ?
Ils sont actuellement en fleur. Le lys c'est quand même une plante assez extraordinaire. L'occasion de rappeler également, attention au bouquet de lys, parce qu'il y a un pollen orange extrêmement tachant. Je le dis parce que j'ai déjà détruit quelques chemises blanches en me rendant à des cérémonies. Ce qui est ballot, vous venez avec un bouquet de lys et cela vous coûte un pressing. Alors, pour garder d'une année sur l'autre.
Il n'est pas capable de laver ses chemises.
Non, c'est des pressings pour lui.
Non, mais le problème, c'est pas tellement le lavage, c'est le repassage de la chemise, mais c'est un autre sujet.
Appelez-moi.
Donc, je n'oublierai pas. Donc, que faire? Eh bien, il vous suffit simplement, si vous souhaitez laisser les lys en terre, et c'est possible, en espérant que les mulots ne s'en délecteront pas, eh bien, de couper simplement de moitié la tige qui a porté les fleurs.
Il y a 10 ans, près de 10 ans, Gabriel a planté un joli conifère, mais il ne grandit pas. Pourquoi?
Parce qu'il aurait fallu connaître le nom du conifère. Vous savez, quand il y a des conifères qui ont comme nom botanique, qui se termine par nana, N-A-N-A, oh, c'est pas de la familiarité avec le végétal, ça veut dire qu'il va rester nain. Il y a quantité de conifères nains. Alors, effectivement, si vous achetez un conifère nana, que vous le plantez dans votre jardin, que ce conifère, vous l'avez acheté, il fait 40 cm, 30 ans plus tard, il fera toujours 40 cm, c'est normal. Donc attention, regardez bien les étiquettes. Certains conifères, je pense aux séquoias, peuvent atteindre des hauteurs vertigineuses, d'autres peuvent avoir un développement à l'horizontale, d'autres se contentent de rester tout petits, mais ce qui est petit est mignon.
Très rapidement, question d'Aline, les feuilles de mes érables sont tachées de blanc, est-ce que c'est grave?
Non, c'est une maladie actuellement qu'on appelle de la tache blanche, c'est dû au printemps extrêmement pluvieux. L'avantage de cette maladie, elle ne contamine ni le végétal ni les rameaux. Elle épuise un petit peu la plante, mais il n'y a pas de danger de survie pour les érables.
Un dernier conseil.
C'est la fête des plantes et du jardin du domaine de Perret. C'est à Prissé-la-Charrière et selon le département 79, les Deux-Sèvres.
Vous avez révisé vos départements
oui,
ce matin.
Oui.
C'est les 79, les Deux-Sèvres, c'est bon. Merci Alain Baraton et à samedi prochain.
À samedi.